Je vous remercie. Je vais céder donc maintenant la parole à Madame Geneviève Garrigos, qui est présidente d'Amnesty International France. Comme prévu, vous avez donc deux à trois heures. C'est ce qu'on avait. Alors, vous avez 15 minutes.
Je ne sais pas si ce serait suffisant, mais tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour ce retard, mais comme vous le savez, le monde ne va pas très bien et j'étais sur un autre pays à l'UNESCO et donc voilà, j'essaye de répondre aux demandes qui me sont faites et c'est pas toujours évident. Dans tous les cas, c'est vrai qu'Amnesty International travaille depuis de très nombreuses années sur la question Israël, territoire occupé et Palestine. Et si vous le permettez, j'aimerais revenir sur sur un sujet qui est pour nous tout à fait crucial, c'est celui de la lutte contre l'impunité. Amnesty International, non seulement effectivement suit et essaye de suivre, je dis bien essaye de suivre, et je vais vous expliquer pourquoi, quand il y a des périodes plus conflictuelles, comme quand je dis plus conflictuelles, quand il y a vraiment un conflit comme ce qui s'est passé à l'été 2014 ou comme s'est passé à la fin de l'année 2012 et ensuite et antérieurement de fin 2008-2009 avec l'opération Plomb durci. Et à chaque fois, notre objectif est effectivement d'être sur place dans la mesure du possible et de pouvoir suivre comment sont menées ces opérations et dans quelle mesure ces opérations sont respectueuses du droit humanitaire international. Je dis bien dans quelle mesure, puisque nous avons pu constater au cours de ces trois dernières parties de conflits intenses que effectivement il y avait eu des attaques disproportionnées, des utilisations d'armes prohibées, voire des cibles du ciblage d'objectifs civils comme il y a eu et que cela de la part de tous les acteurs part au conflit. Cela a été beaucoup plus difficile en 2014 pour une raison très simple, c'est que depuis le conflit de 2014 avec l'opération qui avait démarré justement par l'enlèvement d'un soldat israélien par des milices armées, eh bien, la bande de Gaza est totalement interdite, hein, nous n'avons pas d'accès, ainsi que les autres organisations de défense des droits humains, voire les représentants des organisations internationales gouvernementales, telles que les rapports des Nations Unies. Et pour nous, cette question des violations des droits humains, des crimes de guerre, des violations du droit humanitaire international est une question très très sérieuse parce que pour Amnesty International, le fait même que cette impunité entretient non seulement les violations et des violations entre les périodes de conflit, mais aussi aboutit à des violations beaucoup plus graves dans ces périodes de conflit. Et donc, depuis des années et des années, nous nous battons pour que justice puisse être faite. Ce que nous avons constaté, c'est que effectivement, on voit depuis un certain nombre d'années que malgré les rapports, malgré les témoignages, les rapports, et y compris les résolutions qui peuvent être adoptées, eh bien, la situation n'évolue pas. À l'été 2014, quelques jours après justement le début de ce conflit, il y a eu une résolution par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies installant une commission d'enquête indépendante pour que justement elle puisse aller sur le terrain et enquêter et rapporter l'état de ces violations. Or, d'une part, concernant Israël, les enquêteurs n'ont pas pu se rendre en Israël dans les territoires occupés, ou y compris à Gaza, hein, puisque personne ne peut y aller. Mais ensuite, on a vu dans un deuxième temps qu'il y avait une campagne pour expliquer que cette mission d'enquête était biaisée, puisque le président de la mission d'enquête, le professeur Chabar, était lui-même accusé de conflit d'intérêts. Et c'est le même processus, d'ailleurs, qu'on avait observé déjà avec la mission d'enquête qui avait été mise en place suite à l'opération Plomb durci de 2008-2009. Joseph, avec le monsieur Goldstone, le juge sud-africain, qui là aussi avait été accusé de biais et de conflit d'intérêts. La difficulté que nous voyons là, c'est que d'une part, évidemment, on constate ce refus de participer à des enquêtes, ce refus qu'il y ait des enquêteurs internationaux, mais nous constatons également que sur le terrain, eh bien, il y a un manque, il n'y a pas réellement d'enquête indépendante et impartiale qui soit menée, que ce soit du côté d'Israël, que ce soit du côté des autorités palestiniennes. Et donc, on est dans un système où finalement, on va de violation en violation sans que justice soit faite aux personnes qui se retrouvent victimes de ces atteintes. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des violations qui ont pu être constatées parce que, bon, elles ont été connues et le nombre de pertes civiles et d'enfants, et mais également la question des exécutions extrajudiciaires qui ont été commises, notamment par le Hamas, justement à Gaza, pour de Palestiniens qui étaient suspectés justement de intelligence. Avec Israël, mais on sait très bien que les tirs de roquettes vers Israël, mais on sait très bien que ces violations existent et elles existent en toute impunité. La question de la justice se pose également en dehors des périodes de conflit, parce que quand il est question justement, par exemple, des territoires occupés, ce que l'on oublie souvent, c'est que la puissance occupante en l'occurrence Israël, a des responsabilités au titre du droit humanitaire international, et que le fait d'implanter des colonies est contraire au droit humanitaire international, et tel que c'est fait, eh bien, c'est un crime au regard justement de ce droit humanitaire international. Et de même que souvent on nous dit le fait qu'il y ait l'embargo sur Gaza, que les autorités israéliennes disent que Gaza est finalement une zone libre et qu'elle est totalement indépendante et c'est un territoire palestinien non occupé. Or, nous considérons que du fait même que de l'embargo, qui est un embargo qui est à la fois maritime, aérien, on a vu d'ailleurs que l'Égypte a détruit, a fermé d'ailleurs le passage du côté de sa frontière, et qu'ils ont détruit énormément de tunnels justement qui permettaient d'approvisionner. On voit bien que du fait de l'ampleur de cet embargo, eh bien, nous considérons que finalement la bande de Gaza est en elle-même aussi un territoire occupé, et que les insuffisances, quand je dis insuffisances, les problèmes qu'il peut y avoir à Gaza, y compris pour l'accès aux soins, y compris pour l'alimentation, y compris pour les questions de l'eau et d'électricité, eh bien, sont aussi de la responsabilité de l'État d'Israël. De même qu'on le voit depuis mi-2014, le fait qu'il n'y ait pas possibilité de faire rentrer dans la bande de Gaza des matériaux de construction pour permettre de reconstruire tout ce qui a été détruit. On sait que les dégâts ont été très très importants pendant justement juillet-août 2014. Eh bien, là aussi, continue à harceler et avoir un impact extrêmement négatif qui est là aussi sous la responsabilité de l'État d'Israël. Donc, on voit qu'il y a que ce soit en période de conflit pur ou en période, je ne sais pas comment on peut dire, non-conflit, mais le reste du temps, on va dire, eh bien, il y a des violations graves. J'oubliais, et c'est pas la moindre, non pas que je l'ai oublié, mais je n'en ai pas parlé, c'est la question des détentions administratives de longue durée, qui là aussi constitue une atteinte profonde aux droits humains, puisque c'est une forme de harcèlement, hein, mais c'est surtout le fait de détenir de façon prolongée des personnes sans qu'elles soient jugées est une atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, au droit de finalement des personnes de se défendre et de pouvoir contester leur détention. Donc, toutes ces violations mises bout à bout, on voit qu'il y a tout de même une grande accumulation. Et du fait que l'on ne peut pas obtenir justice, parce qu'on retrouve des blocages à tous les niveaux. Et à ce titre, les États-Unis jouent un rôle majeur, parce que ce soit pendant les périodes de conflit pur où il y a une volonté de... Comme vous le savez, seul le Conseil de sécurité peut saisir la Cour pénale internationale quand les États concernés ou l'État concerné n'est pas lui-même parti au statut de Rome, eh bien, les États-Unis ont bloqué, eux, les résolutions en ce sens. Et quand il y a eu d'ailleurs le vote pour l'installation, pour décréter et installer la commission d'enquête sur le conflit en juillet-août 2014, les États-Unis sont le seul État qui a voté contre. Donc il y a un refus de sa part systématiquement de permettre de faire progresser. C'est pour ça que nous, très tôt, nous avons commencé à demander à l'autorité palestinienne qu'elle reconnaisse justement, qu'elle devienne État partie au statut de Rome, qu'elle reconnaisse le statut de Rome, justement pour qu'elle-même puisse faire appel à la Cour pénale internationale. Déjà en 2009, après l'opération Plomb durci, ce qui avait été fait était très important, c'est que l'autorité palestinienne a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale sur les crimes commis, en tout cas sur ces territoires, l'installation de la Cour, c'est-à-dire en 2002. Et ça, c'était déjà très, très important parce que ça permet, quand, j'espère, il y aura vraiment saisie, qu'on puisse enquêter depuis 2002, c'est-à-dire avec une antériorité assez importante. Et cela comprendra, entre autres, par exemple, l'établissement du blocus depuis 2007. Donc, déjà, il y a eu cette reconnaissance qui était majeure. Ensuite, il y a eu, ça a été un peu un feuilleton avec des rebondissements, des saisies de la Cour pénale internationale, mais qui s'est déclarée non compétente, etc. En 2012, à partir du moment où la Palestine est devenue, a obtenu le statut de membre observateur au niveau des Nations Unies, ça lui donnait la possibilité enfin de pouvoir adhérer au statut de Rome et donc devenir État membre à la Cour pénale internationale. Cela a pris longtemps, puisque ce n'est qu'en avril 2015 qu'enfin elle est devenue le 123e État parti au statut de Rome. Et pourquoi ? C'est tout simplement parce que, là encore, il y a eu énormément de pressions qui ont été faites. Et pendant toute cette période, Amnesty International, en plus des rapports et des enquêtes qu'elle peut lancer régulièrement, mener et lancer régulièrement sur la situation, eh bien, nous avons fait un plaidoyer très très important, que ce soit auprès des États qui faisaient pression sur la Palestine pour pas qu'elle devienne État membre. Bien sûr, il y avait les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France aussi, d'une certaine façon, et d'autres États de l'Union européenne. Alors, au motif, c'était oui, mais si vous reconnaissez, ça va entraver le processus de paix. Si ce serait un geste négatif pour aller vers la paix. Et puis, dans certains cas, ça a été jusqu'aux menaces d'arrêter les aides. Et on l'a vu d'ailleurs, à partir du moment où la Palestine a fait sa demande d'adhésion en début d'année 2015, Israël a coupé d'ailleurs les fonds qu'elle devait envoyer à l'autorité palestinienne, qu'elle a rétabli plus tard. Mais depuis avril, ça y est, la Palestine est donc État membre. Maintenant, malheureusement, ça prend du temps, parce que une fois que l'on a saisi la Cour pénale internationale, il faut déjà que la procureure décide elle-même d'ouvrir une enquête. Et pour nous, s'ouvre une nouvelle phase de plaidoyer, si je puis dire. Autant jusqu'à présent, nous avions fait du plaidoyer pour que la Palestine devienne partie. Maintenant, nous faisons du plaidoyer justement pour que les États soutiennent cette demande d'enquête par la CPI et qu'on puisse avancer. Parce que, et je m'arrêterai là parce que c'est peut-être mieux qu'on puisse effectivement échanger, mais souvent on dit saisir la CPI, mais ça, Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cela ne veut pas dire que l'on condamne quiconque le fait de saisir la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, elle a un procureur, Madame Bensouda, et cette procureure, eh bien, si elle décrète d'ouvrir le dossier, la première chose qui va être faite, ce sont des enquêtes. Et la question n'est pas d'ouvrir des enquêtes sur les faits commis par Israël ou les faits commis, que ce soit par l'autorité palestinienne ou par le Hamas ou des groupes armés, c'est d'ouvrir une enquête complète sur tous les crimes qui ont été perpétrés. Et de ce fait, cela devrait permettre de faire la vérité. Donc, ce n'est pas condamner, c'est juste le premier pas, l'enquête, pour déterminer, essayer de déterminer les éléments, la vérité et aboutir à de la justice. Parce que on peut parler de paix. Et on parle de paix et on voit combien c'est long et c'est difficile à aboutir à la paix. Mais il ne pourrait y avoir jamais de paix s'il n'y a pas de justice. Parce que pendant toutes ces années, et quand on dit ces années, ces décennies, il y a eu des crimes odieux qui ont été commis. Et tant qu'il n'y aura pas de justice, on sera toujours dans un besoin de vengeance. Même si à un moment donné, eh bien, on se dit, allez, on tourne la page. On le voit partout où il y a eu des conflits qui ont été mortifères, partout où il y a eu des violations graves. Quand il n'y a pas de justice, la paix ne peut être durable. En tous les cas, eh bien, il reste, y compris sur plusieurs générations, le besoin de savoir, le besoin de justice. Et tant qu'il n'est pas accompli, eh bien, on sait que ça peut repartir et on ne peut reconstruire un avenir pour tous. Donc, nous continuerons à nous mobiliser pour que cette justice puisse enfin avoir lieu et que les victimes, leurs familles, eh bien, aujourd'hui, puissent savoir ce que c'est, ce qui s'est passé, pourquoi, et qu'elles obtiennent justice et réparation. Merci beaucoup.